bonjour à tous et merci de votre présence, merci de l'intérêt que vous marquez à notre travail. Donc, je me présente, je suis François Simon, le directeur de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine et en compagnie de Maria Santos-Sens, qui est donc enseignante chercheuse à l'Institut également et à l'Université Bordeaux-Montaigne. Nous sommes accompagnés de deux étudiants qui ont occupé des responsabilités importantes dans la réalisation du magazine que nous allons vous présenter. Donc il y a Pachi et puis Vincent. Et donc Pachi était l'un des deux rédacteurs en chef étudiants avec Salomé Parent, qui ont donc piloté la rédaction étudiante que nous avons accompagnée à Saragosse. Alors Viso, c'est un magazine des étudiants, un magazine qui est réalisé en deuxième année de master professionnel par les étudiants qui ont choisi la spécialité presse écrite et qui toute l'année, ou en tout cas une grande partie de l'année, se sont préparés à ce déplacement, puisque depuis maintenant 5 ans, nous allons dans un pays européen. Et là, donc, alors je salue Frédéric Augry, qui est la graphiste qui a réalisé toute, et la maquettiste qui a réalisé la maquette et toute la mise en page de ce très beau magazine dont nous sommes très fiers et qui est vraiment d'une facture originale, y compris par rapport aux éditions précédentes. Les numéros de Viso, du point de vue en tout cas graphique, ne ressemblent pas exactement à ce travail-là. Et moi personnellement, je donne mon sentiment, mais je me réjouis de ce qui a été, enfin de la belle image qu'on peut rendre à travers le graphisme et la maquette de ce magazine, qui est à la fois élégant et moderne. Hein, on n'a pas toujours les deux. Et là, je trouve que c'est vraiment une belle réussite du point de vue de la mise en page. Mais les étudiants qui ont largement contribué vont pouvoir s'exprimer. Alors, je reviens simplement donc sur un point d'organisation pour expliquer que, comme pour la réalisation de chaque numéro, donc il s'agit d'un numéro mensuel, hein, on en fait un par an, d'environ une centaine de pages, celui-là 82 pages exactement, mais il est accompagné d'une déclinaison multimédia où il y a donc toute une série de reportages et d'informations qui ont été données sous un format numérique. Et donc si on additionne les deux productions, ben, c'est bien l'équivalent de ce qu'on faisait jusque-là, simplement là les choses se sont réparties Sur deux supports. Donc en amont, le travail a consisté pour les étudiants d'une part à peaufiner leur écriture dans tous les genres journalistiques, hein, puisque dans une école de journalisme on apprend aussi bien à écrire des brèves, de toutes petites informations, que on apprend aussi à faire des enquêtes, des dossiers, à recueillir les propos d'une personne à l'occasion d'entretiens, et puis de faire des portraits, de faire des reportages. Donc toute cette palette de genres journalistiques, les étudiants ont eu l'occasion de s'y préparer en début d'année, et à partir du mois de janvier, si je puis dire, on est rentré dans le vif du sujet en pouvant bénéficier, comme on le fait chaque fois, de la collaboration des étudiants en journalisme de la ville où on se rend. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les étudiants du pays peuvent à la fois aider les étudiants de Bordeaux, de l'IJBA, à affiner les sujets, les angles des reportages, à tout de suite les arrêter si leurs idées sont irréalistes ou irréalisables, plus exactement. Donc on peut avoir de très bonnes idées et puis quand on connaît le terrain, se rendre compte qu'on ne peut pas la mettre en pratique, cette très bonne idée. Donc là, grâce aux étudiants espagnols, les étudiants peuvent avoir une vraie discussion sur le caractère opérationnel des décisions qu'ils prennent. Et donc une fois que les choses sont bien calées, que les rendez-vous sont pris, qu'on a à peu près une idée de la manière dont les reportages vont se répartir dans le journal, une fois que ce travail est fait, eh bien, on part pour une huitaine de jours dans la ville en question, et donc c'est ce qui s'est passé à Saragosse. Alors, je ne vais pas être plus long, c'était simplement pour resituer un petit peu le cadre de l'organisation du travail, et je vais peut-être tout de suite passer la parole à Pachi, qui a donc été rédacteur en chef, et qui, avant peut-être qu'on aborde le contenu, peut donner un certain nombre d'éléments d'information sur la manière dont vous vous êtes préparé en fait à cette aventure.
Ouais, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ce qui est intéressant en tant qu'étudiant, c'est de construire un projet de A à Z.
Le Viso, c'est le seul magazine qui nous permet ça, c'est-à-dire on est arrivé en deuxième année, c'est le rendez-vous des presses écrites, des spécialités presse écrites en deuxième année, et on sait qu'à la fin de l'année, que l'année scolaire va se ponctuer par un projet que nous allons construire de A à Z, c'est-à-dire qu'on a choisi les sujets, on a choisi les thèmes, on a choisi les catégories du magazine, tout ça, mais on a aussi choisi le papier. On a aussi choisi l'identité graphique. Grâce à Vincent, cette année, on a beaucoup travaillé l'illustration, on a beaucoup travaillé l'image aussi. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est le premier viso qui a été fait uniquement avec des images des étudiants. Avec
sans des photos en acheter des à des agences de photos qui permettent quelquefois de compléter ce qu'on n'a pas réussi à obtenir. Hein.
Voilà. Donc c'est un
produit de A à Z.
Voilà, produit de A à Z, et c'est une fierté particulière. Oui. Après, heureusement qu'on a eu aussi des profs, des intervenants pour nous encadrer, parce qu'on avait tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais c'est aussi le jeu, la folie, la folie de la jeunesse. On part un peu dans tous les sens. Heureusement qu'il y a des gens pour nous cadrer un peu. Non, sur la manière de se préparer, comme sur tous les projets, ce qui est difficile en amont, c'est de s'imaginer déjà dans la ville, de s'imaginer les défis dont la ville fait face, déjà à Bordeaux, de s'imaginer déjà prendre contact, de faire une pré-enquête. Ça a commencé en décembre, en janvier, tout ça c'était assez difficile. Et ensuite, ce qu'on a dû faire en avance aussi, c'est le choix des sujets, c'est-à-dire qu'on avait, je sais pas moi, une quarantaine, une cinquantaine de sujets dans le viso. Au final, il va y avoir beaucoup moins quelques productions en moins quand même. Donc il a fallu éliminer des sujets, il a fallu affiner des sujets, il a fallu préciser certains angles. Je pense que ça a été une excellente préparation et une excellente amorce par rapport à notre intégration dans la vie professionnelle. Parce que il a fallu savoir faire des choix, il a fallu savoir faire des compromis, il a fallu... je tiens à préciser que ce viso a été fait totalement démocratiquement, parce que toutes les décisions ont été votées à main levée, que ce soit le titre, l'image, la quatrième de couverture, la couleur, tout ce que vous voulez. C'est ça, c'est ça, on avait ça en tête. Et donc c'est un super projet, et puis je voulais féliciter aussi et remercier Lijba et François Simon et Maria Santos Sainz de nous donner cette opportunité là chaque année, parce que je pense pas que ce sera de sitôt que dans notre carrière on nous laissera la possibilité de monter un magazine de A à Z. Voilà.
Alors Vincent, pour vous la préparation c'était quoi?
Alors la préparation,
vous deviez avoir un œil.
C'est ça, moi j'étais donc en charge un peu de la photographie dans le magazine.
Je vous coupe, je précise que dans un magazine, l'image est essentielle. Hein, je veux dire, donc si on n'a pas ce qu'il faut en image, on peut aller faire autre chose. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Donc c'est vraiment essentiel, quoi.
Donc oui, moi je peux vous parler de la préparation visuelle, on va dire, du magazine, parce que ce magazine résulte vraiment d'une intention de notre part de changer un peu la formule visuellement parlant. On voulait un magazine qui ressemble un peu moins à un magazine étudiant qu'à un vrai magazine qu'on pourrait trouver en kiosque, et là-dessus on a été vraiment aidé, que ce soit par notre première volonté qui était de changer le papier. On a un papier mat qui donne vraiment une identité au magazine. Et là aussi, encore merci Frédéric Augry de nous avoir bien écouté là-dessus, sur la maquette aussi, de tout le dialogue. Il y a vraiment eu un dialogue dans l'équipe pour arriver à monter et arriver à ce résultat. Donc voilà, la préparation, c'était vraiment beaucoup de débats sur comment donner un coup de jeune un peu à ce magazine, comment le rapprocher des standards d'aujourd'hui qu'on peut trouver dans certains kiosques.
Voilà, alors ensuite on peut-être aborder le contenu. Qu'est-ce qui nous a donc intéressé et qu'est-ce qu'on a quand même mis en avant dans ce magazine? Au départ, il y avait quand même une interrogation et une question. Saragosse, avec toute une série de grandes villes d'Espagne, Madrid, Barcelone, Saint-Jacques-de-Compostelle, Cadiz, Oviedo, Saragosse fait partie de ville où la municipalité a été conquise par un éventail de formations politiques qui se sont rassemblées et qui sont issues du fameux mouvement des indignés. Et donc, ce mouvement, vous en avez entendu parler. Ce qui le caractérise, c'est donc sa volonté de changer radicalement la pratique politique et d'offrir aussi une alternative à ce que pouvaient proposer les partis traditionnels, que ce soit le Parti populaire espagnol ou le Parti socialiste. Donc, il y avait en quelque sorte une volonté de changement, mais... Une fois parvenu au pouvoir, il était très intéressant pour nous de voir comment cette volonté de changement, cette indignation, pouvait se traduire dans les faits. Autrement dit, placée aux responsabilités depuis 2 ans, comment ces municipalités, donc d'un genre nouveau, d'un nouveau style, avaient-elles réussi ou pas à mettre en œuvre de nouvelles pratiques politiques. Et donc là, c'était très bien de ne pas venir tout de suite, mais de venir au bout de 2 ans, pour qu'il y ait quand même un début d'expérience de l'exercice du pouvoir. Et pour nous, donc, il y avait une vraie curiosité à savoir comment est-ce que ces formations politiques, assez diverses, assez hétérogènes, qui décidaient de se réunir, mais qui avaient en commun une culture horizontale de la politique, allait se débrouiller en étant placé à la tête d'une municipalité, donc dans une structure hiérarchique verticale. Hein, comment est-ce que des gens qui sont habitués, je donne un exemple, à décider de tout en assemblée générale, allaient se comporter, si je puis dire, en tant que chef de service, devant passer des ordres, devant donner des ordres à des employés municipaux, etc. Donc c'était très intéressant pour nous de voir comment ces gens animés d'un idéal certain se comportait en face de réalités liées à l'exercice du pouvoir. Donc là, les étudiants ont vraiment très bien, se sont très bien comportés, c'est-à-dire que je pense que le principal risque, c'était d'aborder ces questions avec des stéréotypes qu'on pouvait avoir à partir de l'expérience de la vie politique française. Donc l'idée, c'était d'arriver l'esprit suffisamment ouvert pour être attentif à des choses nouvelles dont on ne soupçonnait pas forcément l'existence, mais dont il allait falloir rendre compte en étant le plus précis possible, hein, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une collection de discours, il s'agissait d'observer dans tous les domaines de l'activité municipale les avancées, les endroits où il y avait des blocages, et éventuellement même les endroits où ça patinait, où il y avait des difficultés et où la volonté de changement n'arrivait pas à se traduire dans les faits. Donc, moi, là, je voulais féliciter les étudiants et dire en même temps qu'on était très fiers d'eux, parce que là, on arrivait devant un champ d'exploration, devant une série de terres inconnues que eux-mêmes, et je dirais même nous, n'avions pas eu l'occasion d'aborder, hein, puisqu'il s'agissait de rendre compte de nouvelles pratiques politiques dans un contexte quand même de grandes difficultés, c'est la crise, hein, en Espagne, donc de grandes difficultés économiques et sociales, et aussi dans un contexte de tensions politiques très fortes. Parce qu'une des premières choses qui nous a frappé, c'est qu'il y avait de la résistance en face de la mise en place de ces expérimentations. Ces expérimentations se heurtaient à des résistances très fortes, hein, et donc il s'agissait à la fois de bien pointer la réalité des rapports de force, des choses qui évoluaient, des choses qui avançaient, ne pas en tirer trop rapidement des conclusions qui pouvaient aller dans un sens ou dans un autre, donc essayer d'être mesuré dans l'interprétation qu'on pouvait faire de ce qu'on observait, et donc de trouver finalement un ton juste. Et là, les étudiants, qui sont quand même jeunes par définition, mais jeunes en ce sens où ils ne disposent pas d'une expérience ni d'une culture politique qui peut être celle des générations plus âgées, pour eux, c'était quand même un vrai défi, c'est-à-dire qu'il fallait être capable d'observer, de repérer et d'interpréter des situations politiques et des pratiques nouvelles sur le plan politique et social sans avoir forcément les références historiques avec lesquelles on peut faire des comparaisons, des contextes dans lesquels on peut remettre ce qu'on voit. Donc ça, c'était une vraie difficulté. En même temps, je dirais que pour nous enseignants, c'était aussi un vrai défi que de pouvoir expérimenter à travers les discussions qu'on avait avec les étudiants, ben de leur apporter aussi des choses dans la connaissance du contexte, de l'histoire de l'Espagne, de la géopolitique de l'Espagne, de la géographie de l'Espagne. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'apport de Maria Santosens, espagnole, ben nous a permis d'avoir une longueur d'avance au lieu d'avoir une longueur de retard. Hein, je dirais que uniquement des enseignants français n'auraient pas eu la compréhension et n'auraient pas été capables de transmettre les clés de compréhension nécessaires aux étudiants qui, eux, ben, en toute logique, abordaient en terre inconnue. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Patchy sur le contenu.
Mais sur le contenu, on a décidé de diviser le magazine en quatre parties. Donc, la mairie en première partie. Dans cette première partie, on aborde, comme c'est marqué dans la première couverture, le lieu de pouvoir. Voilà, c'est-à-dire, comme l'a expliqué M. Simon, ce sont de nouvelles personnes qui ont investi les lieux de pouvoir. Donc, on a trouvé pas mal de choses à raconter. Y a un portrait du maire. Un article sur la tension entre le club de foot local et la mairie. Y a un article sur les jeunes engagés. Il y a un article sur les Sahraouis, les causes qui sont défendues par les Saragossans. Et essentiellement, c'est ça. Et avec un joli portrait du maire, vous verrez les photos de Vincent aussi qui sont admirables. La deuxième partie, c'est la rue. On en avait peut-être une idée préconçue en tant que Français que la rue était un terrain de jeu, si j'ose dire, important en Espagne. Et ça a été le cas, ça s'est confirmé quand on y était. Au travers de nos reportages, on a été amené à passer pas mal de temps dans la rue. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un terrain d'expression important pour les habitants. Beaucoup de messages passaient par la rue d'abord, avant de passer par les lieux de pouvoir. Et donc c'est ce qu'on a essayé un peu, c'est la trame qu'on a essayé de suivre dans cette partie. Donc il y a un gros papier sur El Gancho, qui est le quartier de Saragosse où émergent toutes les nouvelles tendances, où émergent toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles politiques, voilà. Il y a ensuite, le jour de que j'étais arrivé, il y a ensuite voilà, un article sur la Cinco Marsada, qui est en gros la fête populaire annuelle, et la fête la plus importante de la ville chaque année, qui se fête, comme son nom l'indique, le 5 mars. Donc c'est un lieu aussi, une date de revendication. Il y a un grand entretien avec deux féministes, donc il y a une philosophe et une photojournaliste. Ensuite il y a un portfolio, le portfolio de Vincent aussi, qui a été très important cette année, qui est sur les bâtiments construits, enfin il vous expliquera mieux que moi, mais voilà, sur les bâtiments construits pour l'exposition universelle, c'est ça ? L'exposition internationale. Et voilà, peut-être je peux te laisser dire deux mots sur le portfolio, comment tu as travaillé dessus ?
Oui, en fait c'est une histoire assez intéressante. En 2008, à Saragosse, s'est tenue l'exposition internationale qui avait pour thème l'eau et le développement durable. C'était un projet de longue date qui avait été voté bien avant la crise de 2008. Et la municipalité ainsi que le gouvernement d'Aragon ont investi énormément d'argent dans ce projet. Et c'est un projet qui n'a pas su en fait avoir le retentissement prévu. Bien sûr, on en a entendu parler en 2008 de cette exposition internationale, mais finalement peu, et surtout les retombées qui étaient prévues n'ont pas du tout été celles escomptées. Et on se retrouve avec tout un quartier, légèrement à l'extérieur de Saragosse, mais à 10 minutes à pied, hein, pas plus. Un quartier qui aujourd'hui est un quartier fantôme et étonnamment futuriste, parce que de très grands architectes se sont retrouvés sur ce projet d'exposition internationale, et tout est tombé à l'eau, et c'est assez intéressant de voir comment ce qui avait été imaginé comme développement durable ne l'a pas été, finalement pas durable du tout. Donc voilà, c'est un quartier étonnant, et très, très visuel, on s'était dit que ça pouvait faire un portfolio intéressant, parce qu'au niveau des photos, il y a des choses à faire, il y a des prouesses architecturales qui sont vraiment bluffantes, mais abandonnées, tout simplement abandonné. Il y avait des projets de récupération d'eau, de climatisation grâce à des cuves remplies par l'eau de pluie, de panneaux solaires, et tout ça est abandonné. Voilà.
Voilà, et ensuite pour finir cette deuxième partie, vous aurez un papier sur le combat sur le patrimoine entre l'Église et les citoyens qui, voilà, pour récupérer le patrimoine religieux. Peut-être Vincent, je peux te laisser continuer avec les deux autres parties.
Donc ensuite, on a une troisième partie qu'on a nommée la fabrique, où là on s'est plus intéressé au développement économique et surtout à comment les gens le vivent, avec un premier papier sur Opel, sur l'usine Opel, qui est une usine très très importante dans l'économie des alentours de Saragosse.
Je précise que pour nous, ce qui était intéressant, c'est que l'usine était rachetée, il y avait le rapprochement avec PSA, et donc on pouvait aussi avoir un intérêt en tant que Français à savoir ce qu'allait devenir ce patrimoine industriel.
Vient ensuite un article sur Arigno, qui est un petit village qui a toujours vécu l'économie du charbon, de l'extraction de charbon, donc de ces mines. Les mines sont fermées les unes après les autres depuis plusieurs années. Et on a pu se rendre sur place au moment où la dernière mine souterraine était démantelée. Ils étaient en train de la vider, et au profit d'une mine à ciel ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'une mine à ciel ouvert, en fait, a besoin de beaucoup moins d'employés pour vivre. Donc ça a entraîné énormément de suppression d'emplois dans le secteur minier.
Je fais aussi un petit rajout là-dessus. Pour nous, c'était quand même intéressant de montrer à des étudiants qui n'ont plus connu en France une seule exploitation charbonnière en activité, de pouvoir, on sait quand même que les mineurs, ça a joué un rôle important dans l'histoire économique de la France. Et là, bon, il a fallu qu'on aille en Espagne pour retrouver quand même une activité charbonnière et que les étudiants puissent aussi voir concrètement ce que ça signifie, l'extraction du charbon.
Ensuite, on a un article sur la bière Ambar, qui est une bière qu'on ne trouve, pas qu'on ne trouve qu'à Saragosse, mais qui est faite à Saragosse. Et pour preuve, on la trouve dans certains bars bordelais. Voilà, c'est une bière. C'est vrai que au début, on était tous d'accord pour se dire peut-être que cet article ne marchera pas parce que voilà, ça n'est qu'une bière parmi tant d'autres. Mais c'est impressionnant de voir à Saragosse la publicité qui est faite autour de cette bière. C'est une institution locale. C'est quelque chose qui fait partie de la vie des habitants de Saragosse. En tout cas, des buveurs de bière. Ensuite, on a rencontré le docteur Gutiérrez, qui est un universitaire à Saragosse, qui est proche du génie, qui a travaillé notamment avec la NASA, mais aussi avec, il a fait des partenariats plus étonnants, comme Walt Disney. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir ce portrait qui est assez, assez stupéfiant. Et cette troisième partie se termine sur quelque chose qui est très très important dans l'Aragon, c'est le cinéma. L'Aragon est vraiment une terre de cinéma qui a accueilli beaucoup de tournages, que ce soit historiquement, les premiers films espagnols ont été tournés là-bas, mais aussi encore aujourd'hui. C'est une terre, les paysages sont magnifiques dans l'Aragon, c'est une terre qui inspire beaucoup les réalisateurs. Et on en arrive à notre quatrième partie, donc le village, où là on est plus allé dans les terres, dans la campagne aragonaise. Et on ouvre avec un dossier sur les villages abandonnés, le pays du vide, puisque énormément de villages sont abandonnés, sont aujourd'hui en ruine. Et on a pu rencontrer les derniers habitants ou des gens qui essayent de faire revivre ces villages. On a essayé de comprendre cette problématique à travers plusieurs exemples, des exemples très variés, comme un village qui a été, par exemple, repris par les communistes, qui en ont fait un village de vacances. On a aussi l'exemple
des bouddhistes
d'un village qui a retrouvé une stabilité, disons, économique, enfin, qui revit un peu grâce à un temple bouddhiste. C'est dû à un exode rural qui existe partout, mais c'est vrai qu'en Aragon, il y a vraiment, il y a un, comment dire, un, un vrai décalage de densité de population.
Puis c'est proportionnel à la croissance de Saragosse aussi, donc ce que vous dites, c'est de l'exode rural.
Oui, et puis il y a une explication qui est quand même donnée par les journalistes espagnols qui ont travaillé, enquêté sur cette question, et qui par rapport à la France est un élément de comparaison, c'est qu'il n'y a pas la même densité de services publics que celle qu'on peut connaître en France. Hein. Et donc, de ce fait, quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus d'hôpital, quand il n'y a plus de chemin de fer, quand il n'y a plus de route, quand il y a... Voilà. Il y a les mêmes problèmes en France, mais il y a une sorte de... le choc est en quelque sorte... Le choc de l'exode rural est en quelque sorte amorti parce qu'il reste encore par le socle minimum de services publics qu'on conserve.
Après, ce qui est beaucoup plus frappant dans la campagne aragonaise, c'est que c'est le désert, quoi. C'est vraiment le désert. Oui. La terre est rouge ou jaune. Il n'y a pas de végétation.
Il n'y a pas d'herbe.
Il hein, n'y a pas d'herbe. Donc voilà, avant d'arriver à Saragosse ou en y repartant, c'est le désert. Quoi. Et les villages abandonnés, c'est d'autant plus frappant que c'est vraiment abandonné. Quoi. C'est le désert.
Et cette campagne, comme on le disait, est magnifique. Et donc elle arrive à survivre grâce au tourisme. Mais le tourisme ne fait vivre que certains pôles attractifs. Que le village d'Alcaissar, par exemple, qui lui vit très très bien grâce au tourisme, mais tout autour, tous les petits villages qui sont autour, vous trouverez notamment le portrait de Ramon, qui vit très, enfin, pas très très loin de d'Alcaissar, et qui vit dans un village abandonné, où seuls quelques citadins viennent l'été en famille, bon, voilà. Et il se bat pour faire revivre son village. Donc dans cette quatrième partie, donc nous disions toute la thématique des villages abandonnés. Il y a donc le portrait de cet homme qui vit seul, entouré de ses 25 animaux. La problématique du tourisme aussi, hein, d'Alcaissar, on en parle de ce village. Ensuite, on a le village de Belchite, qui lui est très important dans la mémoire aragonaise, puisque ça a été un lieu de massacre, je crois qu'on
et
peut le dire,
de bataille pendant la guerre civile.
Et ce qu'on a appris sur place, c'est qu'en fait, Belchite a été reconstruit, le village a été reconstruit par Franco. Donc il y a un nouveau Belchite. Qui est juste à côté des ruines, des ruines immenses. Hein, ça, c'est très grand, le vieux village de Belchite. C'est assez impressionnant à voir. Voilà, le journaliste qui, enfin, l'étudiant en journalisme qui s'est penché sur la question a essayé de voir un peu comment vivent ces deux villages, hein, avec la question de la mémoire historique. Et on termine le magazine sur la gare de Canfranc. Là, je vais passer la parole à Bachi, qui a travaillé dessus.
J'y tenais à cet article, j'ai voulu particulièrement le faire parce que c'est à 10 km avant la frontière franco-espagnole. Et en fait, c'est la deuxième plus grande gare d'Europe, derrière celle de Stuttgart, il me semble, derrière une gare en Allemagne. C'est un immense édifice et pareil, qui est complètement abandonné. Donc en plus, moi quand j'y suis allé, j'avais la chance d'avoir de la neige. Donc tout était recouvert de neige, c'était très photogénique et assez magnifique à voir. Mais c'est une expérience assez prenante d'arriver dans ces Pyrénées, d'arriver dans un coin très, très fermé, enfin, c'est dans une vallée, c'est assez fermé, c'est juste avant la station de ski de Candanchu, et on voit cet immense édifice posé là, avec ses wagons en bois complètement pourris, envahis par les herbes folles, donc voilà, c'était un article super touchant à faire. J'ai rencontré le chef de gare actuel qui se bat pour faire revivre cette gare. Les citoyens aussi qui en ont bénéficié pendant des années, qui se battent pour faire revivre cette gare. J'ai rencontré Fermin, qui est un peu la mémoire de la gare. Lui, il a fait une collection des trains miniatures chez lui. Il a reconstruit une maquette de la gare miniature chez lui. C'est un fou de cette gare, c'est un fou des trains. Et voilà, donc c'était un article super intéressant à faire parce que c'était un édifice unique que peu de gens connaissent. Donc je vous invite à lire cet article pour découvrir vous aussi la gare.
Et d'actualité en plus.
Et d'actualité, ouais, parce que Alain Rousset a apporté sa pierre à l'édifice, si j'ose dire, et a aussi montré son intention de rouvrir cette gare pour renforcer justement les liaisons. De personnes, mais aussi de marchandises, entre l'Aquitaine et l'Espagne. Et pour finir, je tiens à vous préciser que, comme vous avez pu le voir, là, c'est des articles assez conséquents qui ont demandé de la préparation. C'est pas des, voilà, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on a fait des articles par-dessus la jambe. C'est des articles qui ont demandé pas mal de travail. Sur le web, on a fait aussi une version de Viso un peu plus légère, un peu plus estivale, si j'ose dire, qui est axée plus sur la culture. Donc vous trouverez un article sur la musique, un article sur les tapas.
Beaucoup d'informations pratiques.
Beaucoup d'informations pratiques et plus tournées sur la culture. Donc voilà, si vous vous intéressez personnellement à la ville de Saragosse ou si vous avez l'intention d'y séjourner prochainement, je vous invite à découvrir l'application Viso aussi, que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Et une chose aussi, vous retrouverez tout au long du magazine, un petit peu parsemé comme ça, des portraits de personnes qui s'appellent De Visu. Et en fait, ce sont des gens qui ne pèsent pas forcément dans la ville. Ce sont des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des citoyens. Mais on a essayé de dresser un portrait de la ville à travers leur portrait à eux.
Des gens ordinaires,
à travers leur vision de la ville à eux, à travers ce qu'ils apportent, ce qu'ils font comme métier, dans quoi ils sont engagés. Voilà, donc on a essayé de dresser un portrait de la ville. Nous avions en tête le modèle de Humans of New York. C'est un projet d'un photographe américain, voilà, qui a fait un peu cette idée-là avec New York. Nous, on a voulu le faire, alors par l'écrit surtout, mais aussi par l'image. Je vous laisse découvrir dans le magazine. Et vous trouverez aussi quelques légendes de pyrénéennes. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Des légendes de pyrénéennes qui ont une importance assez forte quand même dans les Pyrénées. C'est-à-dire, c'est des légendes qui se transmettent, alors soit de génération en génération, soit de village en village. De mère en fille, ce sont des légendes fantastiques, on a un peu mis le nez dedans sans savoir trop où est-ce qu'on allait se diriger, et au final on a vraiment trouvé pas mal d'informations et voilà, donc c'est Anaïs qui a fait ces légendes, que vous retrouverez aussi dans la dernière partie, dans la partie qui s'occupe de la campagne et de tout l'Aragon. Vous retrouverez deux ou trois légendes pyrénéennes.
Et je voulais dire en tant que lecteur que je trouvais que c'était vraiment très réussi parce qu'il y a à la fois la dimension fantastique et c'est très poétique, très humain et c'est très fort. Hein. En fait, on apprend beaucoup de choses sur la vie dans les campagnes aragonaises à travers ces légendes. Elles sont très bien racontées, il y a beaucoup d'humour et en même temps, on voit que la vie était quand même très dure. Hein. De mon point de vue, puisque là, moi, j'ai surtout relu le travail des étudiants après coup. Je trouve qu'un des articles les plus intéressants concerne la rénovation qui a été entreprise du quartier, l'un des quartiers les plus pauvres du centre de Saragosse. Et dans ce quartier, donc, qui était marqué par la prostitution, les trafics, une grande pauvreté, il y a eu une volonté de revaloriser le quartier, mais pas simplement les bâtiments, comme on pourrait le faire ici à Bordeaux, mais de revaloriser aussi la vie du quartier et les habitants d'origine. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'entreprendre une mixité sociale en essayant de faire venir des gens plus fortunés qui pouvaient donc rééquilibrer, si je puis dire, la vie du quartier, éviter que ce soit un ghetto, hein, où les gens seraient concentrés, les plus pauvres seraient concentrés entre eux. Mais à côté de ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la revalorisation, il y avait des éléments matériels, mais qu'elle était aussi fondée par les initiatives culturelles. Autrement dit, au lieu d'enfoncer les gens du coin en leur disant vraiment en dehors de la prostitution et des trafics, il n'y a rien, il y a eu un vrai travail pour réhabiliter, y compris la vie culturelle du quartier, tout en la laissant accessible aux gens qui étaient les habitants d'origine. Alors ça, je trouve que, alors c'est que l'amorce d'un processus, hein, peut-être que ça ira pas plus loin, peut-être comme c'est dit par les étudiants, cette volonté de maintenir les habitants du cru et éviter les phénomènes de gentrification qu'on peut connaître par ailleurs, peut-être que ça va échapper au contrôle de la municipalité, mais le maire habite ce quartier. Donc, si je puis dire, il veille au grain et il est capable aussi d'observer la manière dont les choses évoluent. Alors, jusqu'où ça pourra aller? Mais je trouvais que revaloriser un quartier sur le plan matériel, mais aussi dans l'image que les habitants du quartier peuvent se faire de leur cadre de vie, ça, je trouvais ça intéressant. Voilà, parce que ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à faire, de garder les gens et en même temps transformer tout leur cadre de vie, tout en leur conservant une fierté pour ce quartier. C'est-à-dire qu'au lieu de faire venir une population qui prendrait leur place, on les maintient et on essaie de les rendre fiers de la nouvelle image qu'on donne en les associant à l'école, au centre culturel, à tout ce qui peut être fait, les centres sociaux, toutes les initiatives. Et vous lirez, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Et puis alors une des réussites aussi, parce que c'est très bien écrit par les étudiants donc, qui ont pris en charge ce sujet, c'est qu'il n'y a aucune lourdeur, il n'y a pas de misérabilisme, on est dans, je dirais clair et presque léger, dans ce quartier quand on lit l'article en question. Et je trouve qu'il y a eu à la fois une finesse dans l'observation et je dirais une intelligence du cœur pour aborder des questions qui sont trop souvent l'objet de stéréotypes. On va vous remercier, hein. Bravo, bravo aux étudiants.